Ah, là, il est allumé. Et vous m'entendez mieux? Là-bas, au fond aussi? Ah, ben, c'est bon. Ils ont levé la main, ça veut dire qu'ils m'entendent. Gloire au Seigneur. Nous allons faire une première étude dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13 et verset 11. Je n'ai pas fait exprès, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer ce matin. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu vieux homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté à une présentation d'un bébé. D'un être qui vient au monde. Il est tout petit, il ne sait rien, mais il faut qu'il apprenne. Et ce texte de la parole de Dieu nous apprend que sur le plan spirituel, et nous en avons parlé il y a quelques semaines, qu'au milieu de nous, il y a tous les âges spirituels. Il y a l'enfant qui vient de naître, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet adolescent ou ce vieillard qui vient de se convertir, qui vient de donner son cœur au Seigneur dans la repentance et dans la foi, eh bien, il vient de le faire, il n'est qu'un bébé. Mais il ne faut pas qu'il le reste, parce que le bébé que nous avons présenté au Seigneur ce matin ne restera pas bébé. Heureusement. Il grandira, il deviendra adolescent, il deviendra grand, il deviendra adulte, et ce sera quelqu'un d'extraordinaire. Mais sur le plan spirituel, c'est pareil, frères et sœurs. C'est pareil. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais je ne suis pas resté enfant. Il ne faut pas que le chrétien, l'enfant de Dieu, qui vient de se convertir, ou qui s'est converti il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, il ne faut pas qu'il reste enfant. Il faut qu'il mûrisse, qu'il grandisse dans les voies du Seigneur, qu'il sache ce que le Seigneur attend de lui, ce que le Seigneur veut faire avec lui et en lui. Il faut qu'il grandisse. Alléluia. Il faut qu'il grandisse. Et la question que je ne voudrais pas poser, mais que je pose quand même, est-ce que nous savons quel âge, l'âge que nous avons sur le plan spirituel? Non pas en nombre d'années, mais en maturité. Est-ce que nous avons grandi? Est-ce que nous sommes plus mûrs dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes capables d'avoir des responsabilités comme un adulte sur le plan humain et a des responsabilités? Les parents de l'enfant que nous venons de voir ont une responsabilité, ils sont majeurs, ils sont adultes, ils ont une responsabilité de par la naissance de leur enfant. Et je disais l'autre jour à mon petit-fils qui venait d'avoir un enfant, je dis « Maintenant tu as une autre responsabilité ». Tu n'es pas responsabilité seulement de ta vie ou de ta femme, mais tu es responsable de cet enfant. Tu as charge d'âme. Amen. Et nous aussi, frères et sœurs, nous grandissons dans les voies du Seigneur et à mesure que le temps passe, nous grandissons et nous devenons de plus en plus majeurs, matures, avec des responsabilités, bien sûr. Je ferai une autre lecture, une deuxième lecture dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 7, Évangile selon saint Jean, chapitre 7 et verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand nous méditons la parole de Dieu avec sérieux, avec foi, avec soif, pas comme un roman, non pas comme un livre d'histoire, quoi qu'il y ait des livres, qu'il y ait des histoires dans la Bible, mais autrement. Et la parole de Dieu nous apprend, à sa lecture, à sa méditation, plus exactement, qu'un chrétien conséquent, c'est celui qui a faim et qui a soif du royaume de Dieu. Qui a faim et qui a soif du royaume de Dieu. Et je pose la question sans vous demander de me répondre. Est-ce que vous avez faim et soif du royaume de Dieu? Un chrétien conséquent n'est jamais satisfait de son état spirituel. Il n'est jamais satisfait. Il est heureux d'appartenir au Seigneur, bien sûr. Il est content d'appartenir au Seigneur, bien sûr. Mais il n'est jamais satisfait. Il est satisfait de Dieu, mais pas de lui-même. Il est satisfait de Dieu. Vous êtes satisfait de Dieu? Est-ce que Dieu vous satisfait? Donc il est satisfait de Dieu, mais il n'est pas satisfait de lui-même. Il est conscient qu'il a des choses à faire, des choses à apprendre, encore un chemin à parcourir avec le Seigneur. Il veut aller plus loin avec Dieu. Je dirais tout simplement, sans tordre le sens des mots, il est ambitieux pour Dieu. Il n'est pas ambitieux pour lui-même. Il ne cherche pas à être un Jupiter. Il ne cherche pas à être un grand homme. Il ne cherche rien pour sa gloire, mais tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il espère, tout ce qu'il veut faire, il le ferait et il le fait pour la gloire de Dieu. Désirant aller plus loin avec Dieu pour que Dieu soit glorifié dans sa vie. Il y a des amens un peu timides. Il y a des amens un peu timides. Il est ambitieux pour Dieu. Il n'est pas content. Je dis non, ça ne va pas, il faut que j'aille plus loin avec le Seigneur. Je veux grandir dans les voies du Seigneur. Je veux être un instrument de bénédiction et de salut pour les âmes, et cela pour la gloire de Dieu. Je veux le faire. Je veux en être. L'apôtre Paul nous rappelle, j'ai le texte devant les yeux, mais je ne le dirai pas. L'apôtre Paul nous rappelle que tous ceux qui courent, dans un stade ou ailleurs, tous ceux qui courent, courent pour gagner le prix. Ils ne courent pas à l'aveuglette, ils ne courent pas dans l'espérance d'arriver quelque part. Non, ils courent pour gagner le prix et non pas seulement pour participer à la course. Je souhaite de tout mon cœur, vous m'entendez bien, de tout mon cœur et de toute ma main, que personne ici ne se contente pas seulement de participer à la vie chrétienne. Je ne veux pas, comment dirais-je, seulement participer à la vie chrétienne. Je veux en être. Tous ceux qui combattent, bien ils combattent pour gagner. Mais il y en a, sur le plan sportif, par exemple, prétendent qu'il suffit de participer. Bon, on a été de l'affaire, on a été de la course, on a fait ce qu'on a pu, bon, ben, on n'a pas gagné, mais ça fait rien, on a quand même participé. Est-ce qu'on peut le dire? On peut en dire autant sur le plan spirituel, Le jour où nous aurons des cantarantes devant le Seigneur, est-ce que nous pourrons dire, Seigneur, tu n'es pas content, mais j'ai quand même participé, Seigneur. Combien de temps, je ne sais pas, mais j'ai participé à la vie chrétienne. Je me suis même fait baptiser, et j'ai même été baptisé du Saint-Esprit. J'ai participé à des réunions, mais un jour, eh bien, ça a craqué, et je me suis arrêté en cours de route. Mais j'ai quand même participé, Seigneur. Non, frères et sœurs, mille fois non. Je ne dirai pas jamais cela, je ne souhaite pas que qui que ce soit puisse avoir de telles pensées, de tels sentiments dans ce cœur. J'ai participé. Je me contente d'avoir participé. Non! Comme le disait le frère tout à l'heure, je ne fais pas que participer au salut, je suis sauvé. Je ne fais pas que participer. Participer, c'est faire un bout de route, un petit chemin avec le Seigneur et avec l'Église, et pour des raisons que le Seigneur connaît, et on s'est arrêté. De même, nous devons courir, nous devons combattre, nous devons travailler pour le Seigneur, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui ou non? Oui ou non? Vous voulez arriver au bout de la route? Vous voulez arriver à la ligne d'arrivée? Hein? Sans dire au Seigneur, oh Seigneur, contente-toi de ce que j'ai été. J'ai participé, ça doit te suffire. Vous croyez? L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, lui dit ce texte que tout le monde connaît. J'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course. Désormais, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Et quand on lit l'histoire de Paul, de la vie de Paul, ça n'a pas été une sinécure, sa vie. Ça n'a pas été un voyage d'agrément. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a été souvent près de la mort. Il a été emprisonné, il a été flagellé, il a été battu. Un jour, il a dû s'enfuir dans une corbeille qu'on a descendue jusqu'à terre. Il s'est sauvé comme un malpropre, comme un voleur. Ça a été sa route. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Et pour lui, tous les drames qu'il a vécu font partie du bon combat qu'il a mené. Que Dieu soit béni. Ça fait partie du bon combat. Faire face à l'adversaire. Résister à l'adversaire. S'ouvrir pour le Seigneur. Endurer les incompréhensions, les injustices, les insultes. C'est ce que nos frères et nos sœurs, au-delà du monde, dans le monde, bien connaissent comme persécution. Persécutés à cause de leur foi, persécutés à cause de Jésus-Christ, persécutés parce qu'ils ont renoncé au monde, à la chair et au diable. J'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et quand il dit « j'ai gardé la foi », il ne dit pas peut-être que la couronne me sera donnée, je ne sais pas, on verra. Non ! La couronne de justice m'est réservée, je le sais, je le crois, elle est à moi, je l'ai gagnée, que Dieu soit béni. Amen. Elle m'est réservée, la couronne de Jésus m'est réservée. Elle est à moi, Jésus me l'a acquise. Et j'ai combattu le bon combat pour garder la foi, et j'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce qu'il dira plus tard, nous travaillons, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance en Dieu. Comme je le disais, il a la vue des vertes, et des pas mûrs, battus, flagellés, mis en prison, laissés pour mort. Mais il a toujours eu confiance en Dieu. Il mettait son espérance dans le Seigneur, que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous parle des vierges, des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Et il met l'accent surtout sur les 5 folles. Mais ces vierges, elles étaient vierges. Elles n'ont pas eu d'aventure amoureuse à vie que ce soit, avec qui que ce soit. Elles sont restées vierges, elles ont gardé leur virginité. Elles ne se sont pas engagées avec quelqu'un. Elles étaient vierges, mais elles étaient folles. Et en quoi elles étaient folles? Elles étaient folles parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Elles n'ont pas pensé à l'avenir. Elles n'ont pas protégé leur avenir. Elles ont vécu pour le temps présent, c'est-à-dire tout le temps de la consommation d'huile café dans la lampe. Et quand l'huile a été consommée, elles n'avaient plus rien. Alors elles ont appelé leurs collègues, « Oh, secourez-nous, donnez-nous de votre huile, parce que nous, nos lampes s'éteignent. » Non. Les autres ont dit non, on ne peut pas vous en donner parce que si on vous en donne, eh bien les nôtres aussi s'éteigneront et nous manquerons d'huile. Non, non. Elles sont folles parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes, parce qu'elles n'ont pas pensé au lendemain. Elles ont été folles à cause de cela. Et frères et sœurs, nous avons besoin de penser à notre avenir. Et notre avenir consiste à nous nourrir de la parole de Dieu. Pour être ferme dans le Seigneur, pour être fidèle au Seigneur. Et ces vierges folles ont subi les conséquences de leurs inconséquences. Elles ont été inconséquentes en ce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Et le Seigneur voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit tous les jours. Soyez tous les jours remplis du Saint-Esprit, non pas une fois de temps en temps. Quand vous venez au culte, « Ah, ça m'a fait du bien, je suis content, je suis heureux. » Est-ce que tu en as assez pour demain? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit seulement pour ce matin ou est-ce que c'est pour toute la journée et pour la semaine et pour tous les jours qui viennent? La parole de Dieu nous parle de ces Hébreux qui ont participé, mais qui, à cause de leur désobéissance, ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Ils ont désobéi. Ça, c'est le premier chapitre, remporter le prix. Ne pas prendre de risques. Le deuxième, c'est rechercher la charité. 1 Corinthiens 14, 1, il est écrit, rechercher la charité et aspirer aux dons spirituels. Rechercher la charité, une autre traduction nous dit poursuivez l'amour. Poursuivez l'amour, autrement dit que l'amour ou la charité, l'amour, soit l'objet de votre constante recherche pour l'exercer et pour en être influencé. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés le premier et qui nous a aimés tels que nous étions, comme nous étions. Il n'a pas cherché à savoir si nous le méritions. Non, nous ne méritons rien, mais il nous a aimés. Alléluia. Est-ce que nous méritions d'être aimés? Personne ne mérite d'être aimé. Et l'amour ne cherche pas le mérite. D'ailleurs, l'amour ne recherche rien. L'amour est une essence. Il est dit que Dieu est amour. Il n'aime pas parce qu'on le mérite, ou parce qu'on est beau, vous oui, mais pas moi. Il nous aime parce qu'on est tel que nous sommes, parce que nous sommes ses créatures, parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes les Trinités. Oui, il nous aime parce que nous sommes ses créatures. Nous avons des défauts. Nous avons des choses qui ne sont pas belles dans notre vie. Nous avons des choses que nous verrions que nous serions plutôt rejetés que d'être attirés. Mais le Seigneur ne cherche pas les qualités. Il ne cherche pas. L'amour ne cherche pas à être expliqué, justifié. L'amour ne cherche pas à être justifié. Il n'est jamais justifié et ne cherche pas à l'être. Mon père me disait, quand on aime quelqu'un, un enfant, On l'aime malgré la morve qui coule de ses narines. Il n'est pas beau à voir. Il est dégoûtant. Il est sale. Mais on l'aime parce que c'est notre enfant. Amen. On l'aime, l'enfant, parce que, quoi qu'il en soit, il en est ainsi pour nous avec nos enfants. Est-ce qu'ils méritent toujours d'être aimés? Non! Mais on les aime quand même. Parce que nous ne cherchons pas à ce qu'ils le méritent. Ils sont nos enfants et Dieu agit ainsi avec nous. Il nous aime parce que nous sommes la créature. Il y a un secret qui ne doit pas l'être, qui ne doit pas le rester. Un secret. Comment être rempli d'amour? Comment être rempli d'amour? Comment faire pour aimer les autres? Comment faire pour aimer celui que je n'aime pas? Celui avec lequel je ne suis pas d'accord? Celui que je ne veux pas regarder en face? Comment faire pour l'aimer? Je ne suis pas d'accord avec lui. Il est détestable. Il est rejetable. Mais la parole de Dieu me dit que l'amour aime sans limite. Comment faire? Comment faire pour aimer celui que je n'aime pas? Dans un film, l'autre jour, j'ai retenu une phrase qu'une femme a posée à quelqu'un d'autre. « Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Est-ce que tu as une raison valable pour ne pas m'aimer ? Moi, je vous pose la question autrement. Pourquoi tu ne l'aimes pas ? Pourquoi tu ne l'aimes pas ? Eh bien, pour aimer, il faut demander au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de borne. Il n'y a pas de qualité à rechercher pour aimer celui qu'on n'aime pas, on l'aime naturellement. J'ai vu sur Internet, je crois vous l'avoir raconté, l'histoire d'un homme, d'un Africain, auquel le Seigneur s'est révélé. Il lui a dit, je suis Jésus. Je suis mort pour toi. Et c'était un garçon qui n'était pas à prendre avec des pincettes. Il était dur comme la pierre. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, je suis mort pour toi, je t'aime. Cette parole véridique a traversé le cœur de cet homme. Il a changé du tout au tout, d'un seul coup, d'un seul. Et il raconte dans son témoignage que vous pourrez trouver sur Internet, il a commencé à détester son ancien moi. Et il s'est mis à aimer tout le monde autour de lui, et il est devenu pasteur. Il détestait son ancien moi. Son ancien moi qui lui a fait faire des monstruosités, des bêtises insurmontables. Mais il a changé parce qu'il s'est mis à aimer, contrairement à ce qu'il était avant. Aspirer à l'amour, rechercher la charité. Notre ambition qui devrait être dans notre cœur, c'est aspirer aux dons spirituels. Autrement dit, en d'autres termes, aspirer à être utile entre les mains du Seigneur pour exhorter, pour encourager, pour relever. Parce que le Seigneur ne nous a pas attirés à lui et nous sauver, et ce n'est pas seulement pour lui appartenir, ce qui est la meilleure chose qui soit. Pour que nous faisions partie de son Église, c'est une très bonne chose, bien sûr, mais aussi pour le servir dans l'Église et pour l'Église. Dans l'Église et pour l'Église. C'est-à-dire au milieu de mes frères et sœurs et en faveur de mes frères et sœurs. Je ne suis pas sauvé pour moi-même, mais je suis sauvé pour servir. Amen, je suis sauvé pour servir. Et je le dis toujours, quitte à me répéter, et vous vous souvenez, je me suis converti en 1960. J'avais 60 ans. Et j'ai toujours dit, je ne veux pas être le dernier maillon de la chaîne. J'ai été un jour comme un maillon accroché à la chaîne de tous les enfants de Dieu qui sont devenus enfants de Dieu. J'ai été un maillon, le dernier maillon, mais je veux qu'après moi, il y ait d'autres maillons qui s'accrochent. Je ne veux pas être le dernier maillon, je veux qu'il y en ait d'autres derrière moi. Des hommes et des femmes, au travers de mon ministère, de mon témoignage, se convertissent, se tournent vers le Seigneur. Je ne veux pas être le dernier maillon. Tu ne dois pas être le dernier maillon de la chaîne. Tu ne dois pas pouvoir dire, ça y est, je suis sauvé, tant mieux pour moi, les autres, c'est leur affaire. Non ! Non, ce n'est pas leur affaire, c'est ton affaire. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les Normands disent ça. C'est ton affaire, c'est notre affaire, de chacun de nous. C'est sûr, nous sommes, vous ne serez pas tous pasteurs, vous ne serez pas tous évangélistes, vous ne serez pas tous prophètes, vous ne serez pas tous missionnaires. C'est juste. Mais quand même, le Seigneur a préparé pour nous des œuvres afin que nous les pratiquions. Le Seigneur a préparé quelque chose pour nous, afin que nous le fassions, que ça ne reste pas lettre morte. Il a préparé des choses pour nous. Oui, mon frère, oui, ma sœur, le Seigneur a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Ton entourage a besoin de toi. Les voisins de palier ont besoin de toi. Ta famille a besoin de toi sur le plan spirituel. Ne dis pas non. Le Seigneur a préparé pour nous des œuvres. Nous ne le savons pas, mais mets-toi devant Dieu et il te montrera ce que tu dois faire. Peut-être que prier, ben prie. Prie tous les jours, prie avec sérieux, prie pour les tiens. Comme on a fait tout à l'heure, on a prié pour l'enfant et pour sa famille. Ben prions pour que le Seigneur nous aide. Et les dons de prophétie, les dons spirituels sont donnés à chacun pour l'utilité commune, pour édifier. Car il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'être édifiés, pour consoler, pour exhorter l'Église, pour être entre les mains du Seigneur et instrument de bénédiction. L'Écriture nous dit « aspirer » ou « désirer avec ardeur ». Le Seigneur ne fait de don, ne donne qu'à ceux qui le désirent, à ceux qui ont soif, à ceux qui ont réellement envie. Dieu ne donne qu'à ceux qui ont réellement soif, qui désirent le servir réellement, avec foi, en comptant sur lui, en s'appuyant sur lui, mais qui veulent le servir. Parce que, pour revenir à ce que je lui ai dit au début, parce qu'ils veulent grandir, ou parce qu'ils ont grandi. Ils ne sont pas restés des bébés ou des enfants ou des adolescents spirituels, mais ils ont grandi, ils sont devenus majeurs, ils sont matures. Et puis, un autre chapitre de ces désirs, de ces ambitions, rechercher l'approbation divine. Rechercher l'approbation de Dieu. Dans 2 Timothée 2,15, rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point honte, qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Comme un homme éprouvé ou un homme approuvé, Il est clair, et nous le savons tous, que chacun de nous, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en sera, chacun de nous se présentera un jour devant Dieu, pour rendre des comptes évidemment, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est d'être éprouvé de Dieu et approuvé du Seigneur. Éprouvé, c'est pas toujours facile de le vivre et approuvé du Seigneur. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, c'est une chose un peu difficile. L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, versets 17 et 18. Épître aux Romains. J'ai mis des marque-pages pourtant. Chapitre 14 et verset 17. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. D'abord, agréable à Dieu. Or, l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut secouer le ciel et la terre. On peut essayer de faire des prodiges, des miracles. Mais si on n'est pas dans la foi, ce n'est pas la peine. On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on a l'impression de vouloir le remplacer. Non. Car le royaume de Dieu et celui qui le sert de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Or, l'Écriture me dit aussi, dans 2 Corinthiens 10, 18, et ça c'est une recherche qui doit être constante dans notre cœur, quand Dieu approuve les voies d'un homme, qui ne le voudrait? Qui ne le rechercherait? Qui lui tournerait-il le dos quand Dieu approuve les voies d'un homme, ou d'une femme, évidemment. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dieu est bon. Dieu est grand. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous n'en avez pas des ennemis. Sauf le diable, bien sûr, qui est votre ennemi, votre adversaire, qui tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant s'il peut vous dévorer. Mais quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Efforce-toi, dit Paul, efforce-toi d'avoir un cœur sincère, qu'il n'y ait pas beaucoup d'efforts à faire pour être agréable aux hommes, ce n'est pas difficile. Pour être agréable aux hommes, il n'y a qu'à faire ce qu'ils veulent. Comme ça, ils sont contents. Mais pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Vivre dans la foi, marcher dans la foi. Et enfin, je termine par un dernier chapitre. Et le frère nous en a parlé tout à l'heure. Et c'est notre privilège. Je ne dirais pas que c'est seulement notre responsabilité. Ça l'est. Mais c'est aussi notre privilège de gagner des âmes. C'est notre responsabilité, car si nous ne le faisons pas, qui le fera? Gagner des âmes. Et pour cela, il y a des obligations, quelquefois douloureuses, quelquefois difficiles. Je ne sais pas ce qu'a pensé Pierre, l'apôtre Pierre, quand le Seigneur lui dit « Laisse-la tes filets, car désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? Mais mes filets, c'est mon gagne-pain, c'est mon métier, C'est mon travail. Si je n'ai plus de filet, je n'ai pas la pêche, avec quoi je vais vivre? Mais le Seigneur lui dit, jette tes filets, abandonne tes filets, laisse-la tes filets, parce que désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le Seigneur pousse le bouchon. Vous ne trouvez pas? Il pousse le bouchon. Et il voudrait savoir jusqu'où nous pourrions aller avec lui, pour avec lui pousser le bouchon, aller plus loin. Il y a une mathématique cérébrale, mentale, spirituelle que nous devrions peut-être faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis peut-être. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Ce n'est pas un piège que je vous tends, pardonnez-moi. Mais quand même, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Gagner votre vie ou gagner des âmes? Laissez filer, c'est ton gagne-pain, c'est ta profession. Avec ça, tu te nourris, tu nourris ta famille. Laisse-la tes filets. T'as autre chose à faire. Car tu seras un pêcheur d'hommes. C'est pas ce que je vous dis, moi. Hein. Je vous dis pas, laisse tomber ton métier, laisse tomber ta boutique, laisse tomber tes études. C'est pas ce que je dis. Mais c'est une réflexion à laquelle nous sommes amenés. Hein, quelle est la chose la plus importante? Mais quand Jésus dit cela, il ne le dit pas pour le plaisir de le dire. Mais il l'a vécu lui-même, il a donné l'exemple. Parce qu'un jour, il a dit à ses parents humains, terrestres, Marie et Joseph, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Pour lui, c'était un ultimatum. Une obligation sine qua non. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous posez une question, ne me répondez pas. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas non plus une flèche que j'envoie dans votre cœur. Pas du tout, excusez-moi. Mais quand même, ça rejoint ce que Jésus a dit. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Est-ce que cet impératif est dans notre cœur? Est-ce qu'il est dans notre cœur, cet impératif? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cela dans ton cœur? Il faut que je m'occupe des affaires de Dieu. Il faut que je m'occupe des affaires de l'Église. C'est mon père, c'est les affaires de mon père. Il faut que je m'en occupe. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment le faire. Mais il faut que je le fasse. Hein? Mais Dieu est grand pour nous éclairer et pour nous conduire à pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Avant notre conversion, il les a déjà préparées afin que nous les pratiquions. Excusez-moi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour l'exhortation que tu nous donnes, pour l'enseignement que tu nous donnes dans ta parole. Merci Seigneur de nous avoir attirés à toi et d'avoir fait de nous tes enfants. Si nous sommes devenus tes enfants, Seigneur, c'est parce qu'un jour, quelqu'un s'est consacré à nous parler de toi. S'est consacré à nous attirer à toi. Et par ta grâce, nous avons entendu ta voix, Seigneur. Et nous sommes venus tels que nous étions. Nous ne savons rien, nous étions comme des bébés venus au monde sans rien savoir. Et tu nous as pris par la main, tu nous as conduits jour après jour. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis nos vies, bénis mes frères et mes sœurs qui ont écouté patiemment la méditation de ta parole. Bénis le reste de cette journée, cette semaine, Seigneur. Bénis les familles que nous représentons et ceux qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, attire-les à toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans leur cœur au nom de Jésus. Amen.